Je vous invite à prendre votre Bible, aller dans Apocalypse chapitre 20. On est dans les derniers milles de ce livre de l'Apocalypse, et non les moindres. Et c'est tout un défi, vous savez, pour nous, comme chrétiens, de penser au ciel et d'avoir une vision biblique du ciel qui nourrit notre foi à aspirer à ce jour où nous serons avec lui. J'ai lu une histoire cette semaine un peu cocasse d'une petite fille de 3 ans dont son grand-papa avait été transporté à l'hôpital et finalement rendu à l'hôpital à travers une crise cardiaque. Il avait été prononcé officiellement mort. Et donc, quelques semaines plus tard, la petite fille de 3 ans, quelques semaines après les funérailles, il passait en auto devant l'hôpital et d'une manière très spontanée, elle dit « Ah, c'est le ciel! » Parce qu'elle avait entendu, n'est-ce pas, à l'hôpital, que grand-papa était au ciel et le dernier endroit qu'il était allé, c'était où? C'était à l'hôpital. Alors, déduction logique, elle est à l'hôpital. Il est à l'hôpital. C'est là le ciel, finalement. Alors, évidemment, cette allusion enfantine à cette conception-là fait rire. Mais pour la maman qui avait entendu sa fille et qui avait corrigé le tir, ça lui rappelait le fait que grand-papa, pour la maman de la petite fille, mon père, était effectivement à un endroit, était à un lieu. Qui souvent, dans le monde des adultes, le paradis est abstrait, c'est un peu un monde invisible au-delà des étoiles. C'est au ciel, c'est aux confins de la galaxie, un peu abstrait, cette notion d'être dans un lieu précis. Et pour elle, c'est devenu un réconfort à ce moment-là de réaliser, non, il est pas un endroit abstrait, il est dans un lieu bien précis, avec Dieu. Et pour elle, ça a été un élément contributeur à son deuil, de savoir son père chrétien, qui était bel et bien dans un lieu qu'on appelle le ciel, et dont on retrouve même, on va mettre le diaporama, ah, moi je le vois pas, ok, parfait, il apparaît juste ici, où Jésus lui-même utilisera un terme qui n'est pas utilisé souvent, en fait, si je ne me trompe pas, c'est le seul endroit ou deux où c'est mentionné, où Jésus dit, tu seras avec moi aujourd'hui au larron, celui qu'on appelle le bon larron, c'était deux mauvais larrons, mais il y en a un des deux qui a cru, lui, hein, qui était différent de l'autre. Il a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. On connaît ce verset, on connaît cette expression du paradis. Cela vient des mots de Jésus et c'est des paroles de réconfort pour un homme qui est en train de souffrir sur une croix pour des fautes qui lui sont propres, pour lesquelles il est responsable. Mais dont Jésus lui donne une parole de réconfort aujourd'hui même. Donc, dans un temps temporel clair, tu vas être avec moi dans un lieu spécifique, un lieu duquel on vient l'expression paradisiaque, c'est-à-dire qui est un peu au-delà de toutes les descriptions qu'on arrive à imaginer comme humain, d'un lieu incroyable, d'un lieu convoitable, d'un lieu qu'on pourchasse, qu'on espère, qu'on rêve. En fait, tout le monde cherche sur cette terre un lieu béni, n'est-ce pas? Un endroit où ce qu'il va être bien, où ce qu'il va trouver la paix, s'épanouir. Mais finalement, on est en quête de quoi? Le seul endroit qu'on peut trouver cela, c'est auprès de Dieu, au ciel, avec lui, dans l'éternité. Et c'est ce qu'il aspire pour nous. Maintenant, il existe un défi bien réel en parlant du ciel pour nous. Et j'ai trouvé cette citation dans une Bible d'études que je trouvais vraiment bien. Et je vous la lis tout simplement. La Bible consacre bien des places de la place, excusez-moi, à décrire l'éternité, bien plus de place, excusez-moi, bien moins de place. Je vais y arriver, hein. Je vais reprendre du début, c'est ma dyslexie. Alors, la Bible consacre bien moins de place à décrire l'éternité qu'à tenter de convaincre les humains que la vie éternelle leur est librement offerte comme un don gratuit de Dieu. Et là, je vous laisse marcher sur cette phrase-là importante, parce que c'est vraiment important. La Bible consacre bien moins de place à décrire l'éternité qu'à tenter de convaincre les humains que la vie éternelle leur est librement offerte comme un don gratuit de Dieu. C'est là qu'est mis l'accent, parce que c'est ce qu'on a besoin de comprendre pour y avoir accès de notre vivant. Mais oui, elle consacre du temps à décrire aussi le ciel. La plupart des courtes descriptions de l'éternité ne sont que des suggestions, puisqu'elles utilisent des termes et des idées emprunté de notre expérience présente sur Terre pour décrire une réalité que nous ne pouvons comprendre pleinement avant d'y être nous-mêmes. Il me semble que ce résumé était juste sur le défi qu'on a quand on lit sur le ciel, quand on pense au ciel. Et c'est pas pour rien que les gens disent « Ah, j'ai hâte d'aller au ciel, mais tu sais, pas de suite. » Ah, OK. Pourquoi? Parce qu'on est attaché à cette terre. Parce que ça demeure quand même abstrait. Difficile à saisir. Autant physiquement que dans ma tête, dans mon imagination. Ce lieu où Dieu est. Et donc, c'est tout un défi. Et le Seigneur, dans sa bonté, nous donne ce chapitre à la fin de la vision. C'est le Seigneur Jésus qui permet que Jean puisse avoir non seulement une promesse qui avait été faite à ses disciples, que je vais vous préparer une place, mais là, je vais vous la décrire aussi dans la vision de Jean. Je vais vous donner quelques détails pour vous donner un avant-goût. Et le but de ces versets-là, c'est de nous encourager à aspirer à cet endroit-là, de voir qu'on a un Dieu qui, oui, nous prépare. Et comme Louis-Philippe prépare avec sa femme, et qu'on l'a préparé une chambre d'enfant un jour, avec amour, avec de belles petites tapisseries, avec un beau petit coffret. Pourtant, il va y avoir de la crotte sur ça qu'on va changer. Ce ne sera pas chic, il faut être ben honnête. Là. Mais on va mettre une belle petite couverte, on va mettre un beau petit matelas, des belles petites affaires, même si on va faire un gros job sale là-dessus. Là, t'sais. Mais on y met toute l'attention parce que c'est une expression de notre amour pour un enfant qu'on ne connaît pas encore, mais pour lequel on aspire d'une manière très palpable, en préparant un endroit, à voir sa petite binette, à y voir la face. Si c'est un gars, une fille, comment qu'on va l'appeler, puis comment qu'on va l'élever, puis comment qu'on va l'aimer, puis les expériences qu'on va vivre avec, et on anticipe, n'est-ce pas? Et le Seigneur a préparé ça, et là, il nous donne ici quelque chose à anticiper. Mais c'est quand même un défi pour nous. On va essayer cette semaine et dans deux semaines de marcher sur ce texte et essayer de saisir qu'est-ce que Dieu veut qu'on comprenne pour cultiver dans notre cœur le désir sincère de ce lieu incroyable qu'il nous a offert. Et ce qu'on va voir, finalement, dans ces derniers deux chapitres, c'est ceci. C'est divisé en quatre parties essentiellement. Et en quelque sorte, c'est comme trois descriptions du ciel qui nous sont données, comme en trois étapes avant d'avoir finalement la conclusion du livre, qui nous donne en quelque sorte des angles à regarder le ciel et anticiper. Donc, un nouveau monde que Dieu réside avec l'homme. Et finalement, aussi une ville venue d'auprès de Dieu, dont on nous donne le blueprint, on nous donne les détails de cette structure, de cet immense endroit qui est tellement grand que ça veut dire qu'il manquera pas de place. Et aussi d'une ville paradisiaque dans laquelle Dieu va résider. Et on termine finalement le chapitre avec une dernière invitation, des dernières consignes à la fin du livre qui sont données à Jean pour nous lecteurs, que ce soit de l'Église de l'époque d'Antioche, de Laodicée, toutes ces églises qui lisaient la lettre, que ce soit pour nous 2000 ans plus tard, quelques consignes, avertissements en terminant le livre, à réfléchir, une fois qu'on a entendu tout ce message du livre de l'Apocalypse, qu'est-ce qu'on fait avec? Et on a dans cette conclusion-là ici des invitations concrètes à des actions dans notre vie qui nous mettent au défi. On va en regarder déjà aujourd'hui quelques-uns, mais on va regarder surtout la première partie et quelques versets dans la conclusion. Je vous invite à aller dans votre Bible, on va lire quelques versets ensemble, du verset 1 à 7, priant que le Seigneur puisse bénir la lecture de sa parole dans nos cœurs. « Alors je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et la mer non plus. » Ce lieu dangereux où tant de morts ont été rejetés dans le chapitre suivant pour le dernier jugement. Ce lieu incontrôlable qui n'était pas gigantesque comme ça, la mer, au début. Elle n'était pas dangereuse comme ça lorsqu'on la terre a été créée. C'est un fruit, évidemment, de la terre qui a été brisée par le grand déluge, cette grande mer dangereuse. Tout ça est disparu. Et là, tout à coup, la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, donc ce n'est pas comme l'ancienne, toute petite, vieille, brisée, avec plein de couches de destruction, de reconstruction. Non, non, c'est tout neuf. C'est tout du flambant neuf. La Jérusalem nouvelle. Et je la vis qui descendait du ciel. Et elle descendait du ciel de haut, d'auprès de Dieu. Donc, c'est sa fabrication qui descend vers nous. Comme une épouse qui s'est parée, qui s'est, évidemment, décorée, qui s'est mise belle, qui s'est mise sur son meilleur. Mais là, ici, ce qui est intéressant, c'est pas elle qui a été préparée. C'est au passif. Donc, elle a été préparée par Dieu, tout comme l'épouse dans le chapitre précédent pour les noces de l'agneau a été préparée par Jésus-Christ. Ici aussi, c'est la même chose. Elle s'est parée pour son époux, mais en réalité, c'est au passif. La traduction, des fois, ne le met pas la nuance. Et j'entendis, venant du trône, une forte voix. Mais qu'est-ce que cette forte voix veut nous annoncer? Qu'est-ce qui mérite d'être dit si haut et fort? Voici, la demeure de Dieu avec les hommes, les humains. Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples ou son peuple. Et lui sera le Dieu qui est avec eux, le vrai Emmanuel, Dieu avec nous. Et qu'est-ce qu'on dit ensuite? Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni souffrance. Toutes ces choses qu'on vit au quotidien dans ce monde brisé, ça va être fini. Car le monde ancien, on le mentionne, a disparu. C'est tout nouveau. L'ancien, il n'y a plus de comparaison. C'est du nouveau, totalement. Et celui qui siège sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et donc, il répète quatre fois « nouvelle », c'est passé, c'est disparu. Il n'y a plus de comparaison, il n'y a plus de point de repère de ce qui existait, tellement que tout est enlevé. Et puis, il dit « écris ces paroles à l'impératif ». Elles sont certaines et véridiques, c'est pour ça qu'il faut les écrire. Et il me dit « c'en est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin ». À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau vive gratuitement. Le vainqueur recevra cet héritage. Donc, il vient de décrire l'héritage dans ce qui vient d'être décrit dans les versets précédents. Et je serai son Dieu et lui sera mon fils. Et le peuple de Dieu dit... Que Seigneur, tu puisses accomplir dans nos cœurs ce matin ta parole, que ta parole puisse percuter là où ce que nous avons besoin de l'entendre. Nous croyons ce matin que ce qu'on vient de lire, c'est la parole de Dieu. Et Seigneur, nous te demandons d'intervenir dans nos cœurs afin que cette parole nous transforme, qu'elle pénètre et qu'elle tranche là où rien ne peut trancher, si ce n'est que la parole de Dieu qui sépare les choses inséparables pour nous humains. Nos pensées, les mensonges, les conceptions. Fais-le, Seigneur, s'il vous plaît. Nous te le demandons comme ton peuple, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, dans ces quelques versets-là, il y a du contenu, pas à peu près. Et je vais essayer d'être succincte et de vous partager les vérités qui sont là en essayant aussi de vous donner le plus possible d'images, d'illustrations qui peuvent vous aider à saisir l'importance de ce qu'on est en train de lire ce matin. Premièrement, donc, un nouveau monde où Dieu réside avec l'homme. Et voici le nouveau ciel et une nouvelle terre nous sont décrites. Et on apprend immédiatement que tout ceci est évidemment du flambant neuf. C'est pas pareil quand tu achètes une maison usagée, qu'il y a eu du monde dedans. Puis il y en a qui rénovent, ils savent c'est quoi prendre une maison usagée, hein, Tommy? Alors, c'est du travail, t'as la poussière des autres, t'as les problèmes des autres qui ont repoussé, qui t'ont laissé gérer parce qu'ils l'ont mis pour les prochains propriétaires. Faut pas tout régler quand même. C'est pas parfait. Et évidemment, après quelques maisons, des fois, il vient, ah, ça serait le fun, une maison neuve, hein? Mais là, on parle d'autres choses ici. On parle de perfection. Parce que vous savez, l'histoire de Pasteur Benoît qui a acheté une maison neuve. Vous avez entendu ces histoires, hein, de maison neuve, puis les problèmes d'air, puis les problèmes qu'il y a avec sa maison neuve. C'est pas ce genre de maison neuve-là qu'on parle, hein. De la vraie maison neuve, c'est-à-dire une maison parfaite, un lieu parfait où Dieu réside, où il n'y a plus de point de comparaison. Et c'est pour ça qu'il va utiliser l'ancien, le nouveau, pour dire c'est complètement autre chose. Les choses passées, anciennes, toutes des expressions pour nous aider à saisir. Là, ici, dans la littérature rabbinique, certains suggèrent que le monde sera rénové ou renouvelé afin qu'elle soit retournée à son état d'origine comme au début de la création, dans le Jardin d'Éden, par exemple, et purifiée, évidemment, du péché et du mal. D'autres encore enseignent que la terre retournera à son chaos original et sera ensuite recréée avec une nouvelle existence purifiée. Et d'autres encore enseignent que la terre sera complètement détruite et que le ciel le nouveau ciel et la nouvelle terre seraient une création entièrement nouvelle. Et je suis plutôt de cette troisième avis dans le monde évangélique, il y a une variété de conceptions à ce niveau-là. Et je pense que Pierre, le livre de 2 Pierre qu'on a étudié il n'y a pas si longtemps que ça, je résume quelques versets ici que je mets dans un condensé du chapitre 3 et qui va être assez clair, je crois, en le lisant. Regardez bien avec moi, 2 Pierre chapitre 3, « Les cieux et la terre actuelle sont gardés en réserve pour le feu. » Donc, pour une destruction totale. « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » On parle vraiment d'une destruction totale. On ne parle pas de rénovation, d'un remake, d'une réusination, ou rien de tout ça, là. Il n'y a rien de recyclable. C'est tout bon pour le feu. « Les cieux enflammés se dissoudront. » Et les éléments embrasés se fondront. Mais ça ne termine pas là non plus. On dit, nous attendons, selon sa promesse, le nouveau ciel, une nouvelle terre, où la justice habitera. Et pour ça, il doit y avoir table rase, tout du nouveau complètement, pas de recyclage. C'est pas comme nous qui a pris du vieux et qui a finalement donné une nouvelle vie. Mais c'est tout du nouveau, par exemple, ce qu'il donne. Mais il a décidé de travailler avec le vieux qu'on est pogné avec sur cette terre. Mais ce qu'il va nous donner, c'est un corps qui ne va pas être réusiné, là. C'est du nouveau complet. Un nouveau corps. Et la ville dans laquelle on va vivre, c'est une nouvelle ville qui vient d'auprès de Dieu. Un corps qui vient d'auprès de Dieu. Tout est flambant neuf. Ce n'est pas comme la conception des témoins de Jéhovah d'une terre renouvelée. Non. Ce n'est pas ce que je crois que la Bible nous enseigne. Et je trouve que ce texte de 2 Pierre est très éloquent sur la totalité de la destruction qu'il va y avoir de ce qui existe sur terre. Et même cette mer dangereuse qui va être enlevée. On dit aussi que cette ville est sainte, qui vient de Dieu. Évidemment, Dieu s'est acquis un nouveau peuple qu'il appelle saint. Le livre nous parle des saints. L'Église est appelée sainte. Évidemment, c'est un lieu saint où Dieu habite qui est préparé pour nous. Un lieu parfait de sainteté où ce que tout est nouveau. Et il a dit ceci à l'Église au chapitre 3, verset 12. Là, j'oublie, c'est Philadelphie. Il dit au chapitre 3, verset 12, « Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, c'est-à-dire la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu, ainsi que mon nom nouveau. » C'est tout du nouveau. Même le nom de Dieu va être nouveau pour nous, ce qui va nous révéler sur lui. Et donc, entièrement nouveau. Certains ont cru que peut-être cette nouvelle Jérusalem, tout comme le temple dans Ézéchiel, sont des images de l'Église. Mais quand on prend le temps de lire attentivement, ça ne marche pas d'essayer de jouer dans le symbolisme de l'Église et que ça représente l'Église, etc. Non, l'Église et tous les croyants qui sont les vainqueurs, enfants et fils de Dieu, sont invités à participer dans ce nouveau monde entièrement nouveau de la part de Dieu. Et on dit aussi que ce lieu a été préparé, et donc avec beaucoup d'attention. Il est prêt et il est préparé, c'est-à-dire qu'il est, le mot ici qu'on a, paré, c'est le mot pour cosmétique qu'on a en français, cosméo. Donc, c'est le verbe pour dire rendre beau, rendre orné, rendre préparé en vue d'être joli à voir. Et ce qu'il aurait dit, c'est que non seulement c'est prêt, mais ça a été fait avec attention. Comme un père et une mère qui préparent la chambre de leur premier-né. Dans ce même esprit, le Seigneur a rendu tout beau avec une attention. Et c'est pour ça qu'il va nous la décrire dans la deuxième description. On va nous décrire plein de choses, de détails, quand on va regarder le blueprint de cette structure qui est faite avec une attention, une richesse indescriptible, qui dépasse notre imagination de tout ce qui a pu être vu sur terre comme somptueux, comme grand, comme beau. Une ville préparée. Et ça nous rappelle évidemment cette vérité où ce que le Seigneur dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je ne vous l'aurais pas dit. Et moi, je suis allé vous préparer une place. Et il va répéter cette vérité-là, le verset suivant. Je vous ai préparé. Le même mot, il est là, préparé. 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 Et cette place-là, elle est préparée déjà. Elle est toute prête. elle nous attend. Mais elle attend aussi la dernière trompette du signal du retour du Seigneur. La trompette pour dire c'est correct, c'est le temps. Et ce lieu est préparé pour nous avec amour, avec attention paternelle, avec anticipation. Pour lui, c'est déjà fait parce qu'il n'est pas soumis au temps. C'est nous qui sommes soumis au temps. Nous, on est en attente. Pour lui, c'est déjà tout construit, c'est déjà tout habité, c'est déjà tout beau. Nous, nous anticipons. Nous, on est de l'autre côté. Ça, on a cette expression du lèche-vitrine. Vous connaissez l'expression lèche-vitrine? Moi, j'ai un fils qui est fort en lèche-vitrine. Et des fois, il faut que je fasse attention, des fois, il va lécher la vitrine pour de vrai aussi. C'est un autre défi, mais bon. Mathias, si je me rappelle, la dernière fois, c'était... je pense que c'était aux États-Unis. On l'a vu, un magasin, là. Puis là, Julie a vu, il y avait des Legos dans la vitrine. Puis là, évidemment, elle ne voulait pas le traîner dans le magasin en face, puis qu'il touche à tout, puis qu'il pose des questions sur tout. Fait qu'il dit, regarde, Mathias, reste avec papa, là, tu peux regarder les Legos dans la vitrine. Ah, et puis là, l'expérience. Ah, il regardait, puis à un moment donné, il collait la bouche à la vitrine. Ah, Mathias, regarde avec tes yeux, là, tu sais, là. Mais c'était une expérience d'anticipation incroyable, celui de voir des Legos qu'il pourrait un jour peut-être posséder. Fabriquer, avoir sur son bureau, dans sa chambre. Parce que, évidemment, elle ne sait pas de faire passer des Playmobil. Là. Ça, c'est un arnaque. Des Legos. Un Noël, on a acheté des Playmobil. Oh, mon ami! C'était gênant. La déception dans son visage. Plus jamais on va faire ça. Puis des fois, par joke, on va dire, ah ben oui, cette année, Mathias, on va acheter des Playmobil. Non! C'est de l'arnaque, des Legos, ça c'est l'affaire. Et là, quand il regarde des Legos, il peut rêver à regarder. Des fois, il sort ses manuels pour construire, puis là, il regarde les autres Legos que tu peux avoir potentiellement, puis là, il les regarde. Et là, il fait du lèche-vitrine. Il regarde avec passion, n'est-ce pas? Vous comprenez l'idée, hein? C.S. Lewis dit ceci, de fort intéressant, un écrivain évidemment fort apprécié et respecté, écrivain anglais. Pendant que nous sommes sur cette terre, il dit, nous sommes du mauvais côté de la porte. Mais il ajoute, toutes les feuilles du Nouveau Testament font bruire la rumeur qu'il n'en sera pas toujours ainsi. Jésus ne nous laisse pas de l'autre, du mauvais côté de la porte. C'est grâce à lui que nous avons hâte d'aller au ciel. L'espérance qui nous est donnée n'est pas attribuable à notre bon caractère, évidemment, ou à notre service incroyable, ni au fait que nous ayons gagné le droit d'entrer au ciel. Non. Nous verrons notre Sauveur seulement en vertu de notre foi, en son sacrifice suprême sur la croix du Calvaire. Quand nous arrivons au ciel, nous comprendrons les implications profondes de ce que c'était cette anticipation. Et ils comprendront mieux ces paroles, par exemple, de Paul, où il dit ceci dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées, le même mot ici, pour ceux qui l'aiment. » C'est préparé pour ceux qui l'aiment. Qui l'aiment lui. Et donc, en lisant ça, je dis, est-ce que je fais partie de ceux qui l'aiment? Qui avons hâte de le voir? Qui cultivons de le connaître de mieux en mieux de notre vivant? Pour garder l'objectif de celui qui est venu vers nous, qui nous offre une main tendue, un salut incroyable, concocté d'une façon inimaginable pour l'être humain, comme bouée de sauvetage, et qu'on est en train de cultiver cet amour pour lui. Ah, notre salut ne dépend pas de notre amour. Mais ceux qui sont invités et qui ont cru en lui sont caractérisés d'un amour pour lui. Vous comprenez la différence? Est-ce que vous êtes caractérisé par cet amour qui anticipe de le voir, de le connaître? Et il y a tellement d'autres versets que je pourrais citer, mais je veux m'en tenir essentiellement à notre texte, puisqu'on peut aller tellement partout ailleurs pour prouver ces points dans les Écritures que le Seigneur a donné pour nous aider à anticiper et de ne pas juste faire du lèche-vitrine, mais de faire un saint lèche-vitrine d'une certaine façon, parce que les Écritures nous donnent comme information pour désirer, vouloir, anticiper. Et ce qui nous aide pendant ce temps-là à ne pas être en train de se nourrir de ce que le monde veut nous donner, qui nous fait arrêter de regarder vers ce qui nous est proposé. Et tout à coup, on devient distrait, on oublie qui on est, où on va, qu'est-ce qui nous a été offert, qu'est-ce qui nous attend comme héritage. On va y revenir à l'aspect des héritiers. Un nouveau monde où Dieu réside avec l'homme. On dit que c'est un lieu où Dieu habitera avec son peuple, où il y aura la présence de Dieu. Et c'est une grande voix qui annonce cette présence de Dieu, parce que c'est important, avec les humains. Et littéralement, c'est la tente ou le tabernacle de Dieu, littéralement, qui est utilisé comme expression ici. Parce que, évidemment, le mot tabernacle veut dire habitation, hein, ou une tente, un lieu où réside. Et donc, le tabernacle de Dieu, la tente, le lieu où réside Dieu avec l'être humain. Le vrai Emmanuel, le vrai Dieu avec nous, nous avec lui, qui nous invite là où il est. Nous n'avons pas à nous élever pour le rencontrer. C'est lui qui descend à notre rencontre. De même qu'il est devenu homme en Jésus-Christ et qu'il a vécu parmi nous, nous dit Jean. Là où Dieu règne, il y a une paix, une sécurité, un amour indescriptible pour celui qui le vit. Un jour, un docteur, il y a bien des années, lorsque les docteurs devaient venir faire des visites à la maison et qu'il n'y avait pas d'hôpital, un docteur se rendit chez un patient qui mourait. Et ce patient, évidemment, comme bien des patients, a demandé au docteur, comme si celui-ci le savait plus que les autres humains, mais peut-être savait-il qu'il était chrétien, « À quoi ressemble le ciel, docteur? » Évidemment, voyant poindre à l'horizon le danger de la mort. Et le médecin fait une pause, parce que c'est une question embêtante. Comment décrire à quelqu'un dans cette situation-là le ciel, même si tu as lu la Bible? Il voulait trouver une réponse utile et réconfortante pour cet homme-là. C'est alors qu'il a entendu un bruit de grattement sur la porte de la chambre où il était. Il dit, « Entendez-vous? » dit le médecin, cela. « C'est mon chien. » Je l'avais laissé en bas, mais il est tellement impatient qu'il est venu à ma recherche. Il voulait me trouver, donc il vient gratter à la porte. Il ne sait pas ce qu'il y a dans la chambre et ce qui est contenu ici dans la chambre, mais il sait que son maître y est. Je crois qu'il en va de même pour le ciel. Nous ne savons pas à quoi ressemble exactement, mais nous savons que Jésus y est. Et vraiment, rien d'autre n'est aussi important. Il est vrai que la Bible nous décrit des choses sur le ciel, sa splendeur, comment ça va être radieux. Il n'y aura plus de douleur ni de toutes ces choses qu'on ne veut pas. Mais au-dessus de tout ça, de l'autre côté, ce qui nous réjouit le plus, c'est que notre Maître y est. Vous voyez? Et voilà ce qui nourrit le plus notre désir. Non seulement ça, oui, il y a une consolation. Il nous donne des paroles avec lesquelles on peut s'identifier si facilement parce qu'on vit évidemment les duretés de cette terre. J'ai vécu un deuil dans la dernière année. Vous avez certainement aussi, certains vécu un deuil. Des problèmes de maladie, des souffrances, des déceptions, des trahisons, des relations qui sont difficiles, compliquées, à essayer de régler des conflits au travail, à la maison, conjoint, la famille élargie, voisin. Oui, voisin, parfois. Et on vit ça, larmes, soucis, inquiétudes, douleurs, cris. Et il dit, ce lieu-là, tout ça va être effacé. Littéralement, il y a une consolation divine ici où ça va être essuyé, enlevé, effacé, ces larmes. Quand mon fils pleure. J'ai remarqué hier, il avait pleuré dans la journée pour une situation. Et là, j'ai dit, va débrouiller la face. Je voyais encore les traces, tu sais, secs, blanches de ces larmes qui avaient séché sur son visage. Vous savez de quoi je parle, hein? Ben, ces larmes qui peut-être vous avez nettoyé, mais dont les restants restent sur votre visage. Les souffrances de la vie, que le Seigneur lui les voit, même si tu les as nettoyées. Il va les adresser. Ces rides d'inquiétude, ces corps qui souvent se sont courbés de douleurs intestinaux, d'inquiétude et de soucis de la vie. Nos corps affaiblis par le travail exigeant, parfois accablant physiquement, des nuits de travail, des nuits physiques ou des nuits finalement de travail intellectuel qui vous rend le cerveau en gibelotte. Tout ça, il dit, ça va être fini. Il essuiera toute larme des yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil. Il n'y en aura plus de rien de toutes ces choses-là qui nous rend la vie difficile. Et là, il parle un langage qu'on connaît bien. Et souvent, c'est dans ces moments que c'est difficile et que j'ai hâte d'aller au ciel. Quand ça va bien, on ne veut pas trop aller au ciel. Vous avez remarqué? On parle du ciel, mais on a hâte d'aller au ciel quand ça va mal. Quand on vient de perdre notre emploi, quand on a une chicane avec quelqu'un, on ne veut plus de conflits, quand on a un problème de santé et qu'on a hâte d'aller au ciel. Mais quand ça va bien, c'est plus distrayant. Hein? Écoute, peut-être la semaine prochaine, là. La semaine prochaine, j'ai telle affaire, une sortie, j'ai hâte à ça. C'est pas pressant, puis Dieu veut qu'on profite de. C'est un cadeau de Dieu de profiter de la vie ici-bas. Hein? Puis là, tout à coup, on sort d'autres versets pour nous réconforter dans notre vie ici-bas. On est un peu bipolaire à ce niveau-là, hein? Des hauts et des bas, des extrêmes, on a le goût, on a moins le goût, selon nos états d'âme. Le Seigneur le sait, vous savez. Notre Papa Céleste le sait, ce défi qu'on vit. Et ici, il est en train de juste nous aider à anticiper, de voir toutes ces choses-là qu'on trouve, que ça va partir. Et vous savez, de croire cela est aussi d'un grand réconfort dans les moments difficiles. On en a besoin. Je lisais et j'ai dans mes notes, et je ne vous lirai pas, mais la lettre d'un homme qui s'appelle Jos Verkinderk. Oui, je ne le prononce pas bien, c'est hollandais. Et c'est un homme qui écrivait une lettre en 1570. Et si je dis 1570 en vers, ceux qui connaissent un peu l'histoire savent que c'est un moment de grande persécution pour l'Église protestante. Beaucoup, beaucoup d'hommes et de femmes sont morts sur le bûcher pour leur foi. Des fois, on leur mettait même un crochet dans la bouche pour pas qu'ils parlent dans les flammes, pour leur clouer la bouche. Et je lisais une lettre d'un homme qui écrit à sa belle-sœur et à son frère, parce qu'il va être au bûcher le lendemain, et il envoie une lettre. Une belle lettre et d'une grande édification, il touche à plusieurs dimensions. Mais dans sa lettre, on va retrouver ceci à quelque part, vers la fin, où ce qu'il dit, « Souvenez-vous de moi, mon cher frère et ma chère sœur. J'espère vous attendre sous l'autel. » Ah, là, on a une référence à Apocalypse, chapitre 6, verset 3, lorsqu'on voit les croyants qui sont sous l'autel, les martyrs. Et après ça, où toutes les larmes seront essuyées de nos yeux. Là, on retrouve le chapitre actuel et le chapitre 7 qui parle de cette consolation. De Ésaïe, chapitre 25, verset 8, qui nous parle de cette même consolation. Et je vous recommande au Seigneur Jésus-Christ crucifié. Cet homme-là qui anticipait la mort pour lui, vous voyez, ses paroles étaient d'un grand réconfort et il les envoie à sa famille avec les différents soucis qu'il a pour sa femme. Et il dit, j'aurais voulu pourvoir, mais je ne pourrais pas, je vous demande d'en prendre. Et tu vois tous les soucis de cet homme-là qui fait face à la mort avec dignité. Mais comment? À cause de l'espoir, à cause des promesses du Père Céleste, d'un lieu incroyable qu'il peut anticiper et faire confiance que ce Dieu qui me fait anticiper ce lieu incroyable où je vais être bientôt, ben, il va pouvoir aussi s'occuper de ceux que je laisse derrière parce qu'il leur fait la même promesse à ceux qui croient. Cet anabaptiste, Jos Verkinderk, même si je ne le prononce pas, le Seigneur connaît son nom et son témoignage, 450 ans plus tard, est encore là, nourri d'un espoir qui vient de l'Apocalypse, de promesses. Vous savez, peut-être on se dit, mais nous autres, on ne vit pas les mêmes choses. J'aimerais vous dire qu'il y a plus de martyrs dans notre siècle présent qu'il n'y en a jamais eu dans toute l'histoire de l'Église, les amis. Nous, on vit dans la ouate, mais des gens comme ça qui en ont besoin, il y en a partout dans le monde. C'est ici, en Amérique du Nord, qu'on vit un autre défi, celui du confort et de la séduction, alors que d'autres vivent le défi de mourir pour leur foi. Ces paroles sont tellement pertinentes pour aujourd'hui, pour nous consoler de différentes manières et d'anticiper ce que Dieu a pour nous. Dans les années 90, lorsque l'Union soviétique a perdu son emprise sur plusieurs pays se sont séparés de l'Union soviétique et certains d'entre eux ont été extrêmement maganés économiquement, moralement, physiquement, par la dureté du système soviétique. Et un de ces pays, évidemment, le Kazakhstan, qui était un des pires victimes du système communiste, le Kazakhstan. Et dans les années 90, une femme du nom de Mindy Briand est allée faire un voyage missionnaire à Karaganda, une ville extrêmement difficile de ce pays du Kazakhstan, au début des années 90. Et on parlait de cette ville comme la ville où personne ne sourit. C'était la réputation de la ville. La ville où personne ne sourit, tellement que la vie était dure. Corruption, peu d'emplois, la rareté de l'argent, peu de nourriture, de médicaments, dans un vaste territoire, les boutiques vides. Personne, y compris le chef du gouvernement, ne sait quoi faire suite au système communiste et ce qui leur reste. C'est une ville sans espoir. Pas étonnant qu'on a l'impression, quand on se promène dans cette ville, effectivement, personne ne semble sourire, tellement la vie est dure. Et pourtant, elle raconte qu'elle a découvert des gens qui souriaient à Karaganda. Leur visage reflète la joie qui est dans leur cœur parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Ils ont rencontré des chrétiens dans ce pays de misère à cette époque. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils vont habiter, pas dans ce lieu pour toujours, mais pour toujours avec le Seigneur, dans un lieu qui a été préparé et qui leur donnait de l'espoir pour vivre dans un pays de misère. Vous voyez? Peu importe la misère économique, le pays, le manque d'espoir autour de nous, la nourriture de la parole de Dieu pour le croyant qui croit en Jésus-Christ, il y a un espoir incomparable que nous avons comme héritiers du royaume et qui donne du sourire dans un monde où beaucoup ont perdu le sourire. Et j'aime beaucoup cette image, particulièrement, qui va bien avec cette attention de berger dans la préparation de cette cité céleste. Cette promesse qu'il nous donne pour nous aider dans les moments difficiles, pour nous brebis, qui sommes souvent, disons-le, par l'image qu'il utilise, un peu bêtes. Facile à distraire. Comme un troupeau de brebis, facile à égarer, vulnérable. Et ce berger nous donne des promesses, cette anticipation, ce ciel qu'il a préparé, qu'il nous décrit pour notre bien, pour nous encourager, pour nous soutenir à maintenir la bonne route, bêtes comme nous sommes, avec l'aide de Jésus. C'est pas attentionné, ça, un peu, ce berger qui se manifeste dans toutes les dimensions de notre vie. Il continue. Un nouveau monde où Dieu réside avec l'homme. Et là, c'est la particularité, il y a l'homme dans tout cela. Ceux qui y participeront et ceux qui seront exclus de cette nouvelle Jérusalem nous est décrit ici dans les versets 5 à 8. Et premièrement, ceux qui sont inclus dans ce lieu de repos où se trouveront les vainqueurs. Et remarquez bien ici ce qu'on dit face à ces vainqueurs. On a cette promulgation que toutes choses sont nouvelles, premièrement. Pour ceux qui vont résider dans ce lieu-là, toutes choses sont nouvelles et on nous donne une série d'informations avant de nous parler de ceux qui sont exclus au verset 8. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on décrit encore une fois et on revient sur la nouveauté. Et cette voix vient du trône, de celui qui est assis, donc du Créateur, de Jésus-Christ. Il nous vient cette proclamation, toutes choses vont être nouvelles. Vous avez tendance à comparer, il nous le répète, nouveaux cieux, nouvelle terre, il revient avec ça. Toute chose va être nouvelle au cas où tu n'as pas compris. Il n'y a pas de recyclé, il n'y a pas de vieux stock, réparé. C'est tout du nouveau. Et il semble que c'est bon et important pour nous de l'entendre une autre fois. Même si on est rendu à la quatrième fois qu'on répète le même mot. Nouveau, 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 nouveau. Oui, il y a des mots qu'on a besoin d'être rappelés parce qu'on l'oublie si facilement. Le célèbre physicien anglais, Thomas Brown, je ne le connais pas, Mais j'ai lu sur lui cette semaine, quelqu'un y faisait allusion. Il a dit ceci fort intéressant. Il a écrit ceci, il était docteur il y a 350 ans en Angleterre. Et il a fait cette comparaison fort intéressante. Il dit, quand nous commençons à parler de la vie après la mort, nous sommes comme deux enfants, des jumeaux, des jumelles, dans le sein maternel, discutant de la nature de notre future vie en dehors du ventre de maman. Intéressant comme image, hein? La différence entre notre connaissance actuelle et notre compréhension de ce que cela sera que de partager la gloire de Dieu n'est pas moins grand que celle qui existe entre un bébé dans le sein maternel et l'homme de force adulte qui se trouvera à l'extérieur. Difficile à imaginer tout ce que tu raconterais à un bébé qui vit dans un liquide amniotique. Comment tu vas respirer, hein? De l'air, manger, complètement abstrait comme notion, n'est-ce pas? Et ce physicien fait cette belle observation sur ce défi fort intéressant. Il dit, comme chrétiens, nous savons que cela est indescriptible et nous pouvons donc nous réjouir, mais ce sera quand même plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. C'était il y a 350 ans. Est-ce qu'on a le même défi 350 ans plus tard? On dirait qu'il nous parle à nous aujourd'hui en 2022. Même homme, même être humain, même défi. Dans les moments les plus sombres et les plus joyeux de la vie, n'oublions jamais que le meilleur pour nous reste à venir. Notre meilleure vie est à venir, contrairement à beaucoup de gens autour de eux, que leur meilleure vie, c'est maintenant. Après ça, c'est fini, il n'y en a plus d'espoir. Leur meilleure vie, c'est maintenant, parce qu'après ça, ça finit, c'est athée. Il n'y a rien. Fait que profite-en maintenant. Your best life is now. C'est ça la pancarte publicitaire. Ta meilleure vie, vis-la, c'est maintenant. Nous autres, c'est le contraire. C'est pas notre meilleure vie. Notre moins bonne vie, c'est celle-là, mais on doit passer par là parce que c'est par là que se produit ce constat d'échec qu'on a besoin de Jésus et qui nous permet de transiter vers la main tendue qui nous donne vers un autre espoir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va le dire. Il dit, j'ai fait toute chose nouvelle. On vient d'en parler. Et il dit, écris ça. Et là, c'est un ordre. Vous savez, si vous prenez le temps de lire à travers le livre, vous allez découvrir qu'on est à la 11e impératif donné à Jean, écrit. Alors, si vous doutez sur le fait que Jean a écrit, ça fait 11 fois que la révélation nous dit, hey, écris ça, écris ça encore. Et il y a un ordre qui est donné là. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi ces paroles doivent être écrites. On nous décrit comme quoi? Digne de confiance et vrai. En fait, c'est le mot foi, fidèle et vrai. Les mêmes mots qui sont utilisés pour Jésus, celui assis sur le cheval qui descend au chapitre 19, il est fidèle et vrai. On est dans un monde d'infidélité. Mais le mot fidèle ici, c'est le mot foi, c'est-à-dire un monde sans foi, en absence de foi, un monde sans dignité de faire confiance. Et celui-ci se décrit ses paroles, tout comme le maître Jésus qu'il est. Lui, il est digne de foi, digne de confiance. Il est fidèle, c'est ça être fidèle, digne de confiance. Et il est vrai, il est vérité. Donc, il est fiable, tout en lui, tout ce qui lui est donné ici est fiable. Il dit, à cause de ça, écris-le. Il y a tellement de choses pas fiables aujourd'hui qu'on lit, c'est terrible. Hein? Faut tout vérifier. Faut pas te croire tout ce qu'on lit, parce qu'il y a tellement de fausses informations, des parties d'informations, des secondes d'informations où là, l'information est 18, il y a une nouvelle information qui n'est pas encore arrivée, puis on est en retard sur l'information, puis là, tu découvres que finalement, cette information-là est plus pertinente. Mais lui, la parole de Dieu, elle est digne de foi, contrairement à tout ce qu'on lit autour de nous continuellement. Elle est vérité. C'est pour ça qu'il dit, écris-la, c'est un ordre. Écris! Et c'est pour ça aussi que s'il a pris la peine de le dire 11 fois, s'il a pris la peine de l'écrire, n'allez pas vous dorloter du mensonge de vous abstenir de lire de l'Apocalypse, de lire le livre, de dire, c'est compliqué, c'est dur à comprendre. Hey, les amis, il a dit 11 fois, écris-les, c'est pour qu'on le lise. Il a dit 11 fois, écris-les, c'est parce qu'il faut croire qu'il y a vraiment des informations importantes pour ma vie chrétienne qui sont incontournables. N'allez jamais lire tout le Nouveau Testament et vous priver de lire le dernier livre. Ça serait comme lire un Sherlock Holmes puis de laisser faire la conclusion. Vous seriez, je dois le dire, idiot. Et si vous avez des amis comme ça, dites-lui. Pas brillant, là. Lire un Sherlock Holmes puis laisser le dernier chapitre. Un Agatha Christie puis laisser tout le mystère du dernier chapitre. Hey! C'est de la folie! Et on se dorlote des fois, les chrétiens. « Ah, oh, mais tu sais, je lis pas souvent, j'ai de la misère à comprendre. » Ben, c'est ça. À force de lire, vous allez mieux comprendre. Si tu lis moins, tu comprendras moins. Écris. Mais pour nous autres, c'est « lis, 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 lis. » Parce que, vous savez quoi? Le monde nous fait lire bien des choses. Et tout ce qu'on lit autour de nous nous distrait de ce qui est essentiel. Ne dilapidons pas notre temps à lire plein de choses inutiles ou secondaires et de passer à côté de ce qui est le plus important à mastiquer, à lire, à méditer, à réfléchir. Moi, j'ai une de mes tantes, pour absorber la parole de Dieu dans son culte personnel, ça fait des années, puis elle l'écrit plus qu'une fois, elle écrit la Bible au complet. Tout ce qu'elle lit, elle l'écrit. Puis là, elle a des pages et des pages et des pages à travers les années. Ma tante Odile, elle prend le temps d'écrire la parole de Dieu et elle l'écrit pour garder concentré et l'absorber plus. C'est pas beau, ça? Peut-être c'est ce que vous avez besoin comme défi ce matin. Il y a peut-être quelqu'un qui dit, j'ai de la misère à me concentrer. Bien, voilà un beau défi. Écris la parole de Dieu dans ton temps de lecture. Tu vas voir, elle va rentrer encore plus puissamment dans ton cœur. Tu vas la retenir encore plus. N'épargnons pas notre besoin de lire et de lire ce que Dieu a dit. Écris, 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 puis écris. Surtout. Pourquoi? Digne de confiance et fidèle. De plus aussi, il ajoute à cela les caractéristiques suivantes au verset 6. Je vous le relis. Il me dit, « C'en est fait, je suis l'alpha et l'oméga. » Donc, c'est sur la base qu'il est le commencement et la fin, qu'il est le début, la première lettre, la dernière lettre, qu'il est au contrôle de tout ce qui va se passer, n'est-ce pas? C'est sur, et cette déclaration-là se trouve ici. Mais elle se trouve au chapitre 22 et se trouve dans la révélation du chapitre 1, dans la première vision. Ce qui englobe le début et la fin du livre, c'est cette déclaration-là qui est au début de tout et à la fin de tout. C'est lui qui peut ouvrir et clôturer toute l'histoire par ces déclarations-là. Et il dit ceci. « À celui qui a soif, je donnerai la source d'eau vive gratuitement. » Au milieu de notre description du ciel. Encore une fois, ce qui est essentiel pour nous sur terre, au-delà des limitations qu'on peut comprendre du ciel, il réitère l'invitation que Jésus donne encore, cette invitation gratuite, de répondre à recevoir un eau qui va donner la vie éternelle, contrairement à tous les verres d'eau que tu as pris de ta vie, qui t'ont tout à coup satisfait sur le moment, mais une heure ou deux plus tard, il va falloir recommencer un autre verre d'eau quelque part. Il dit, celle-là te donne la vie éternelle et est offerte gratuitement. La gratuité est réitérée ici, elle va être réitérée au chapitre suivant. Et ce qu'il est en train de dire en terminant ce chapitre sur le ciel et ce qui s'en vient, c'est encore la main tendue, la gratuité du salut en Jésus-Christ qui est offerte pour devenir un héritier. Même alors qu'il nous décrit qui va aller au ciel, il nous invite encore. Dans l'évangile, dans l'épître, excusez-moi, dans le livre de Jean, cette révélation de Jésus-Christ, il invite encore. C'est continuellement ce qui est sur le cœur de Jésus pour les vivants que nous sommes. La main tendue jusqu'à la fin. Et on le lisait tantôt dans ce défi et on le voit encore dans la lecture de notre texte, cet accent sur la gratuité et la main tendue. Et vous savez, si ce matin vous êtes encore en train d'écouter une prédication, que vous êtes encore en train d'écouter ce qui est écrit et qui vous est lu, et que vous n'avez pas encore fait cette décision, vous savez, ça serait de la folie de laisser passer une autre journée. Si vous comprenez, vous entendez et que vous réalisez la fragilité de notre vie et le cadeau qui est offert et l'imminence de son retour après avoir regardé tout le livre d'Apocalypse, ce serait de la folie de reporter une autre journée. Cette décision pour laquelle le Seigneur Jésus nous invite, aujourd'hui est un jour de salut. Prends cette décision pendant que tu vis, parce que tu n'as pas de contrôle sur la vie demain. Tu n'as pas de pouvoir, tu n'as pas d'idée. C'est juste maintenant, là, là, ce moment même où ce que tu as le souffle de vie qui t'a accordé, que tu peux encore décider et de répondre à cette invitation d'une main tendue, gratuite, sans mérite de ta part, qui t'est offerte. Pour devenir quoi? Mais regardez bien ce qu'il dit. Regardez tout de suite après l'autre élément. On nous dit à celui qui a soif gratuité, le vainqueur recevra cet héritage. Fait qu'il nous dit que tu n'es peut-être pas encore, mais je t'informe de ton héritage si tu prends la décision. C'est pas beau, ça? C'est pas toujours de même, les héritiers. Hein? Il y en a peut-être qui auraient eu une meilleure attitude de leur vivant s'ils avaient réalisé ce qu'on leur offrait à la fin, dans l'héritage. Et combien de chicanes, malentendus, honteuses, sont faites sur des héritages humains. Humains. J'ai parlé avec un voisin à quelques kilomètres de la maison qui me parlait de son frère, son père, qui était un homme excessivement violent, qui a battu dans son enfance, etc. Et ce fils avait des choses qui repoussaient son père au niveau physique. Il l'avait rejeté, puis il l'a déshérité. Et sa mère est toujours, il s'occupe de sa mère, comme la prunelle de ses yeux. Il la traite tellement bien, c'est beau de le voir aller. Il est dans la cinquantaine, puis il s'occupe toujours de sa maman. Il a été déshérité. Il ne s'est pas battu pour. Il a laissé faire. Pourtant, il n'a pas la foi. Il dit, j'en veux pas. Pourtant, même parfois, dans les familles chrétiennes, on l'oublie que nous sommes héritiers d'en haut et on s'accroche aux héritages ici, prêts à se battre, à jouer au soupe au lait, à la victime, au pauvre de moi, à crier à l'injustice dans cette fragilité humaine qu'on a, dans nos limitations de ce qu'on voit, nos perceptions, nos blessures. Vous savez, pour mieux gérer les héritages sur terre, il faudrait peut-être se rappeler l'héritage qu'on a en haut. Ça nous aiderait-tu, ça, vous pensez? Mais on oublie de qui nous sommes héritiers. Quel est l'héritage la plus importante? Et là, on vient distraire des héritages sur terre. C'est rien. C'est même pas un apéro pour l'héritage céleste. Ces petits héritages mortels, limités, si fragile. Et ces vainqueurs auront, et c'est l'expression utilisée pour les vainqueurs, c'est l'expression utilisée tout le long du livre, pour ceux qui vont persévérer dans la foi, ceux qui vont relever le défi malgré leurs échecs, de demander pardon à Dieu, de rester collés à lui, même si c'est dur, puis qui vont aller jusqu'au bout. Voilà ce qui démarque le vainqueur. Et plusieurs promesses sont données dans le chapitre 2 et 3 pour les vainqueurs, et on va parler des vainqueurs qui sont maintenant rendus au ciel au chapitre 15. En train de chanter à Dieu, de participer à ce qui se passe au ciel avec tout ce qui se passe sur terre. Ils sont déjà là. Et là, il leur donne leur héritage final qui leur est décrit. À vous, vainqueurs. Il leur dit, hey, lâchez pas. Il dit, vous avez vaincu, petits enfants. Vous rappelez Jean, dans son épître? Vous avez déjà vaincu. La victoire est déjà là. Soyez pas timides. Vous avez vaincu. Vous êtes des vainqueurs. Vivez ainsi. Parce que la victoire est déjà faite en Jésus-Christ. À nous de marcher derrière lui dans la victoire, plutôt de tenter de faire notre victoire, humainement parlant, avec du jus de bras, puis des efforts, puis de la religion, etc. Non, elle est déjà faite, nous on marche juste derrière le victorieux. Et c'est ce qui nous rend héritiers d'une formidable fortune incomparable qu'on ne sera jamais capable d'acheter, de mériter, de même comprendre l'ampleur de celle-ci, tellement qu'elle est grande. Le vainqueur. Tant de choses à dire, mais il reste un dernier élément, non moins importante, mais plus désagréable, disons-le. Oui, encore une liste de péchés. Mais pourquoi une liste de péchés quand on nous parle du ciel? Pourquoi? Peut-être parce qu'on est tellement habitué aux péchés autour de nous qu'ils nous rappellent ce qui est mal et nous rappellent aussi que ça ne sera plus là. Au ciel. Il nous rappelle peut-être nos péchés pour inviter celui qui écoute encore à la repentance et de rappeler ce que les valeurs de Dieu sont tellement différentes des valeurs humaines. Le contraire. Et là, il nous fait cette liste de ceux qui ne seront pas là, qui sont exclus. Et je dois vous lire. Même si celle-ci peut-être va vous chatouiller l'oreille et vous choquer, vous déranger. Ainsi soit-il, le Seigneur a vu bon de dire, écris ça aussi. Quant aux lâches, aux infidèles, aux sans-foi, aux dépravés, aux meurtriers, aux impudiques, aux débauchés, ou dans le fond, les gens qui ne pratiquent pas la sexualité comme Dieu le veut, tout simplement, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part ne se trouve pas, dans l'étang embrasé de feu et de soufre. C'est la seconde mort qu'on vient de lire. Il y a 8 versets à la fin du chapitre précédent. Et j'oserais pas le dire si ce n'était pas Jésus lui-même qui vient de le dire. Et il fait une liste de 8 péchés. Et je les passe en batterie un derrière l'autre. Il parle de large, de peureux ici. Juste vous expliquer ce que ça veut dire, ce que ça ne veut pas dire. Ce ne sont pas ceux qui sont timides ici dans leur foi, là. Ou qui, quelquefois, doutent ou se posent des questions. Ce n'est pas ça ici qui est l'enjeu. Mais plutôt qui tournent le dos à Dieu par lâcheté. Ce n'est pas pareil. Ils ne sont pas assez courageux pour suivre et poursuivre Christ, pas suffisamment humble pour accepter son autorité et plier le genou pour céder leur vie, pas assez brave pour céder à l'orgueil. Ils sont assimilés aux incrédules, aux abominables, aux meurtriers, ceux qui vivent dans l'immoralité, dans toute cette liste qui sont donnée. Donc, c'est avant tout un refus, une lâcheté de refuser cette invitation-là et de combattre le bon combat pour Christ. On parle de 100 fois les non-fidèles. Donc, c'est-à-dire ceux qui, finalement, n'ont pas proclamé la foi en Jésus-Christ. Ah, mais tout le monde est croyant aujourd'hui, hein? Ah, mais il est croyant, elle est croyante. Oui. Et ce n'est pas suffisant. La Bible nous dit aussi que les démons, ils croient. Ça ne les a pas sauvés. C'est-à-dire, ils croient, ils savent que Dieu existe. Ils tremblent. Est-ce que ça les convertit? Est-ce que ça les amène à la repentance? Non. La vraie foi produit la repentance. Sans repentance, il n'y a pas de vraie foi. Et la Bible est claire, et c'est Jean qui est clair aussi lorsqu'il répète à plusieurs occasions, les gens ne voulaient pas se repentir, chapitre 16, chapitre 9, de leurs mauvaises œuvres. Et il va nommer les mêmes œuvres qui sont nommées justement ici. Il parle de choses abominables, c'est-à-dire des choses qui sont sales, polluées. Évidemment, pour nous, il n'y a rien de ce qu'on pense, nous autres, qui est abominable, évidemment, parce que le mot indique des choses qui sont d'une nature qui ont été saturées avec l'abominable, des pratiques de vie. Et on parle de choses abominables liées à, des fois, à l'idolâtrie et liées aussi au paganisme. Oui, mais c'est ça qu'on vit aujourd'hui. On vit dans le paganisme, les amis. Le paganisme pur et simple, c'est ce qu'on vit dedans aujourd'hui. Nos valeurs ne sont pas celles de la chrétienté. On se fait éduquer, on se fait polluer dans nos TV, à la radio, de toutes sortes de sollicitations qui sont des pures valeurs du paganisme. Allons pas nous leurrer, là. C'est pas une société chrétienne qu'on vit dedans. C'est loin passé, cela. Jésus dit ceci dans Luc, chapitre 16, verset 15. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Il dit, car ce qui est élevé aux yeux des hommes, dans le paganisme, en quelque sorte, est abominable devant Dieu, le même mot. Il y a une inversion de valeur. Avec nous, je ne fais rien d'abominable. C'est pas ce que tu penses qui est abominable ou ce que les gens pensent qui est abominable. C'est ce que Dieu pense qui est abominable qui est important ici. Et je me rappelle la lecture d'une dame qui, il y a 100 ans, lorsqu'il y avait l'époque du trafic de l'alcool, lorsqu'il y avait les règles aux États-Unis qui empêchaient la production de l'alcool et la vente, il y a une femme qui parlait en utilisant ça pour... Elle faisait des croisades contre la consommation d'alcool, les croisades contre les gens qui faisaient de la contrebande. Et elle utilisait ce verset-là, justement, et cette déclaration-là d'abominable pour la production de l'alcool et la vente sur le marché et toutes les guerres que ça causait par les tueries et le contrôle de l'industrie qui se faisait à ce niveau-là, un peu comme la vente de drogue aujourd'hui. Et elle parlait, ça, c'est abominable. Pour ces croisades, c'est le terme qu'elle utilisait et le verset qu'elle utilisait, intéressant. Elle parle de meurtrier. Ah, des fois, on sent nous autres moins concernés. Ah, ben nous, on n'est pas meurtrier, on est correct, là. On n'est pas dans cette liste-là, on va gérer avec les autres affaires, mais pas celle-là. Et pourtant, Jésus va parler de, pas juste meurtrier physique, il parle de meurtre en parole, il parle du meurtre en pensée. Il ne fait pas la distinction. On parle de débauche et impudique, si. Il parle de sexualité, l'immoralité. Ah, débauche, c'est tellement pas beau. Ah, ben non, c'est sûr qu'on ne pratique pas la débauche, nous autres. C'est... Le mot débauche, c'est le mot pornos. C'est le mot qui veut simplement dire la sexualité en dehors des plans de Dieu. Toute sexualité qui est en dehors du plan de Dieu. qui soit consommé dans ma tête avec le sexe opposé, le même sexe, qui soit fait avant le mariage ou après le mariage dans l'infidélité. Peu importe. C'est la sexualité. Pas comme Dieu l'a donné à l'être humain pour qu'il soit heureux et épanoui dedans. Puis il dit ça. Ça en fait partie. Il n'y a pas de distinction de genre ici, puis tout ce que tu voudras, là. Notre sexualité est brisée, les amis. Notre sexualité, hétéro ou autre, c'est pas grave, là. On est tous pognés avec une sexualité brisée. On doit la gérer, Jésus nous dit. Puis il dit ici, dans la liste, le péché sexuel en fait partie. La gestion de ma sexualité, oui. Ça en fait partie. Après ça, il parle de magicien. Ici, c'est de là qu'on a le mot pharmacie. Là. Ça ne veut pas dire que c'est mal, la pharmacie. Là. Juste vous expliquer. Là. Mais c'est le mot pharmakos. C'est duquel on avait les drogues dans lesquelles on s'enivrait souvent pour des pratiques occultes, des messes sataniques ou toutes sortes de messes qui étaient faites pour les idoles et qu'on consommait des choses pour venir dans une sorte de situation extatique et de triper. Ah, mon Québécois, de vivre un gros trip. Évidemment, nous, on utilise l'aspect pharmacos, pharmacie, donc la vente des drogues, mais légale et libre, etc. Mais il parle de cet usage dans toutes les pratiques idolâtres. C'est pour ça que tout de suite après ça, il parle d'idolâtrie. Hein? Le septième, c'est l'idolâtrie. C'est-à-dire un culte à une image. Ah, nous autres, on est beaucoup plus sophistiqués. Là. On n'a pas des petites statues, on a des posters. Hein? On a des héros. On a des choses dans lesquelles on concentre toute notre discussion, on parle toujours de cette chose-là ou de cette personne-là. On met notre énergie, nos pensées sur ces choses-là. Hein? Ça devient l'endroit où on met notre énergie, notre argent, nos efforts. Nous, on a juste des plus belles idoles, un petit peu plus modernes. Mais c'est des idoles quand même, il faut être honnête. Hein? C'est un culte à un objet. C'est un culte à autre chose que Dieu. Si on veut être bien simple, et que quelque chose a pris la place que Dieu est supposé d'avoir dans la vie de chaque être humain. Ça devient un objet, une chose qu'on vénère, qu'on fait un culte pour, qu'on donne notre énergie, notre temps, nos pensées, tout, d'une manière ou d'une autre, et qui devient finalement l'objet de nos pensées. Finalement, ben oui, menteur. Si on trouve les autres, ah, ça c'est grave, c'est grave. Menteur, oui, quelque chose de commun. Il y avait justement quelqu'un que j'écoutais cette semaine sur le fait que les hommes, j'ai vu passer cette vidéo, là, les hommes mentent 3 fois par jour en moyenne, puis les femmes 2 fois par jour. Ils faisaient le décompte, puis finalement, ils en riaient, puis ils disaient, ben finalement, il faut mentir un peu quand même. T'sais, on banalise le mensonge. Le pseudo. Un pseudo-livre, c'est un faux livre, n'est-ce pas? C'est le mot qui est utilisé, un faux. C'est faux, c'est pas la vérité. Puis ce livre, il est quoi? Fidèle, digne de foi et véritable, vérité. Notre Seigneur, il est vérité. Le diable, qu'est-ce qu'il fait dans le Jardin d'Éden? Il sème le doute avec des phrases mensongères ou des demi-vérités intentionnellement pour tromper. C'est du mensonge. C'est du mensonge et c'est, ça fait partie de la liste ici. Il va dire au chapitre suivant, verset 15, « Et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge, qui est répété. » Les 5 derniers versets, les 5 derniers péchés, ici, sont répétés au chapitre suivant. Donc, un peu, on finit cette longue description-là, puis on arrive à cette liste de péchés un peu comme un downer. Point, point, point. On avait le ciel, là, c'était le fun, Joël, mais là, tu nous finis avec un cul de poisson, avec une liste de péchés. C'est vraiment pas encourageant, là, c'est comme décourageant. Mais il est en train de nous dire que le lieu où on va aller, il n'y en aura plus de tout ça. C'est fini. C'est peut-être pour ça aussi que ça vaut la peine, les sacrifices, de vivre par l'Esprit-Saint, déjà en se purifiant et en vivant différemment maintenant aussi. Un lieu paisible, sans péché, rempli de Jésus et de sa paix. Voilà le monde qui nous attend. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ce matin? Je termine avec une conclusion pratique. Peut-être vous voulez prendre des notes, quelques applications qui, j'espère, reflètent bien la pensée de Jean et du Seigneur Jésus dans les versets qu'on a lus. C'est M. Darby qui dit ceci, il y a plus de 100 ans. « Le plus petit de ceux qui s'attachent à Christ, qui aiment Christ, luira dans la gloire de Christ, et celui-là sera trouvé sage, même parmi les méchants qui le méprisaient aujourd'hui. » Il y a un jour où même ceux qui vont rire de nous, qui méprisaient notre foi, qui nous ridiculisaient, vont nous considérer sages. Et rappelez-vous la parabole où ce que Jésus raconte cet homme qui est en enfer. Il est en train de dire, il est en enfer, puis tout à coup, il a à cœur l'évangélisation de ceux qui sont sur terre. Et là, il trouve intelligent Lazare, qui lui avait rien, mais qui a tout maintenant. C'est intéressant. La Bible nous dit ceci, et c'est Jésus qui nous rappelle, « Mais amassez-vous des trésors dans les cieux, ni les vers, ni la rouille, tout ce qu'on a comme notion qui fait pourrir nos richesses aujourd'hui. » Les gens qui avaient des grandes richesses dans la dernière situation économique qu'on a vécue les derniers mois, il y en a qui ont perdu du 20% dans leur placement. Je ne vous ferai pas lever la main. Mais il y en a qui ont perdu encore plus cher en Russie, des gens qui avaient beaucoup d'argent. Une seule guerre, puis boum, ils ont perdu 50% de tout ce qu'ils possédaient en théorie sur Terre. Possessions qui ont disparu à 50% en quelques mois. Notre richesse sur Terre est si fragile. Et Jésus nous dit, arrêtez de mettre toute votre énergie sur les trésors sur Terre. Quel en est-il? Qu'en est-il de ton trésor qui reste, que personne ne peut toucher, que les impôts peuvent aller chercher, que aussi le gouvernement, de manière quelconque, ne peut pas aller chercher, que la rouille et la pourriture de ta maison, un tremblement de terre ne peut pas aller chercher, que les guerres ne peuvent pas aller chercher. On est pas mal tout capable de faire la liste de ce qu'on possède et de ce qu'on vaut aujourd'hui. Qu'en est-il de l'autre liste? Qu'est-ce que je vaux dans les cieux pour Dieu? Quelle est ma vraie valeur durable? Parce qu'évidemment, Abramovitch et tous les autres Hitch qui sont des oligarques en Russie, qui ont des grosses fortunes incroyables, peu importe le côté qu'ils vont aller, vous savez, quand ils vont mourir, il ne traînera pas sa richesse dans sa tombe. Il n'y aura pas de corde pour traîner tout ça aussi jusqu'au ciel, si jamais il va au ciel, tout comme aussi s'il va en enfer pour rendre son enfer moins désagréable. Tu ne le traînes pas d'un bord ou de l'autre, ta richesse. Pourtant, on sécurise pour la retraite tellement sur la base de ce qu'on vaut, de ce qu'on a. Aux 3 mois, aux rapports qu'on reçoit de nos placements, on check attentivement. On s'occupe de nos maisons pour que nos investissements restent bons, pour que lorsqu'on vende, tu sais, c'est en bon ordre. Est-ce qu'on met le même effort sur la richesse vraiment la plus importante? Que j'ai besoin de parler, de partager, construire avec le Seigneur, que lui se porte garant des garanties nécessaires pour celle-ci. C'est une réflexion sur nos valeurs, veux pas. Et ma relation avec l'argent, ma relation avec les choses. C'est tout un défi. Et c'est pas parce qu'on l'a réglé une journée qu'on ne va pas avoir besoin de le régler la semaine prochaine, vous savez. On doit se battre avec ça toute notre vie, parce que tout est là pour nous séduire. Et donc, c'est un autre élément de réflexion pour nous aujourd'hui. Et c'est l'apôtre Paul qui a dit ces paroles-là ici, fort intéressantes. Christ est ma vie, mourir m'est un gain. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui m'est de beaucoup de meilleur. Il n'est pas suicidaire, là. Mais il sait où est sa meilleure vie. Hein? C'est ça la différence. Et c'est ça le défi avec chacune des expériences difficiles de notre vie qu'on accumule au cours de notre existence et sur le plan émotionnel et spirituel. Tant le chagrin que les pertes. C'est C.S. Lewis qui nous rappelle que la mort, que j'ai cité tantôt justement, et le chagrin ne sont que cependant une partie de l'histoire. C'est juste une petite partie de l'histoire en réalité. À la fin de son livre sur les chroniques de Narnia, dans le livre intitulé « The Last Battle », le dernier combat, le roi Edmond, Pierre et Lucie rencontrent le grand lion Aslan, qui représente évidemment Christ, symbole de Christ au ciel, après un accident mortel. Et Lewis a écrit ceci en réponse, il dit « En leur parlant, il ne ressemblait plus à un lion tout à coup. Mais les choses qui ont commencé à se produire après étaient si grandes et si merveilleuses que je ne peux les écrire. Et pour nous, en parlant des lecteurs, c'est la fin de toutes les histoires. Mais pour eux, ce n'est que le commencement de la véritable histoire. » Vous voyez la différence de perspective? Pour le chrétien, la véritable histoire, c'est aux cieux. La vie, la joie éternelle avec Jésus. Et c'est pourquoi il dit, la mort m'est un gain. C'est là que mon histoire va vraiment prendre son aise, ses ailes, et que je vais m'épanouir. Ce n'est que préparatoire ici-bas. Au chapitre suivant, il va nous terminer avec cette dernière diapo, les paroles du chapitre 22, versets 14 et 15. Il dit « Heureux ceux qui lavent leur... » Encore une fois, « Heureux ceux qui prennent une décision de croire en Jésus-Christ, qui ont le pardon de leurs péchés qui a été fait à la croix par Jésus. Heureux, ils sont ceux qui lavent leur robe. Ils ont droit à l'arbre de la vie et pourront entrer par les portes dans la ville. » Mais tout comme on vient de lire à la fin du chapitre, de la section qu'on vient de faire, dehors, les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, qui revient encore, les meurtriers, les idolâtres, et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Ça veut peut-être dire aussi ce matin que Dieu m'invite aussi à regarder un domaine de ma vie que je suis en train de un peu pousser en dessous du tapis. Des péchés que je suis plus supposé de pratiquer, puis là, qui m'atteignent, qui me refroidissent, qui me découragent, et que j'ai besoin de regarder dans le blanc des yeux et demander l'aide de Dieu ce matin. Et dire, Seigneur, je veux te demander pardon. J'ai besoin de passer à une autre étape de ma vie chrétienne. Je ne sais pas comment. J'ai besoin d'aide. Mais ça commence par « Repentez-vous », Jean-Baptiste disait. Ça commence par « Repentez-vous », Jésus disait. Ça commence par « Repentez-vous », Pierre disait aussi dans les Actes. Et Jean dit, chapitre 2, « Repentez-vous aussi ». Ça commence par la repentance partout, peu importe c'est quoi, le renoncement, la confession. Peut-être ce matin, vis-tu du découragement dans ta foi? Et j'ai invité les gens qui font la louange à venir pour terminer avec un dernier chant. Peut-être que ce soit un bientôt, très bientôt, nous allons voir le roi. Peut-être ce matin, tu vis un découragement dans ta foi. Écoutez bien ceci. Laisse cette vision du ciel te fortifier la foi. Peut-être ce matin, tu réalises que peut-être tu ne partages pas la foi comme tu penses que tu le devrais, en tout cas. Comme tu penses que tu l'as déjà fait dans le passé. Laisse cette vision t'encourager et te donner de la fierté de celui qui te donne un héritage incroyable et qui mérite d'être partagé. Qui offre un tel héritage sans mérite ici-bas? Il y a de quoi être fier d'être fils et fille de Dieu. Peut-être es-tu ce matin un peu désillusionné, voyant beaucoup d'hypocrisie dans la foi de ceux qui t'entourent. Laisse le Seigneur t'inspirer à vivre dans ses voies à lui, dans la pureté, et de le regarder à lui seul et arrêter de regarder aux autres qui découragent ta foi. À te comparer, laisse les autres s'occuper avec Dieu et regarde ta foi. Gardons nos yeux sur lui et non sur l'hypocrisie des autres qui me découragent. Peut-être ce matin, es-tu dans la douleur. Peut-être tu es dans une réelle tristesse ce matin, un deuil, un découragement profond. Et il y a des larmes, même s'ils ne sont pas sur ton visage. Il y a des choses qui te tourmentent, des décisions qui te pèsent et que tu dois prendre et que tu ne te sens pas capable de prendre. Laisse Dieu te guérir ce matin, te consoler. Il a cette main tendue, ce berger qu'on voyait tantôt, qui tenait la brebis, qui veut ton bien, qui par ce passage veut t'encourager et te donner une vision du ciel pour t'aider à avancer et prendre les décisions nécessaires qui te préparent d'avance. Il voulait que nous le sachions, ces choses, pour nous aider et nous encourager à avancer dans notre vie chrétienne. Prions le Seigneur. Seigneur, c'est devant toi qu'on se courbe ce matin. C'est devant toi qu'on veut fléchir le genou. Alors que tout autour de nous veut nous inviter à fléchir le genou. Seigneur, c'est toi qui mérites. Notre allégeance, c'est toi qui mérites, Seigneur, un abandon total de qui je suis parce que je suis perdu sans toi. Merci pour ce livre qui me rappelle ce que tu as en réserve pour nous qui croyons. Merci pour ce livre qui m'avertit de ce que tu as en réserve pour moi, pour nous, si nous croyons. Et que c'est encore possible ce matin de prendre cette décision. Seigneur, il y a un combat à l'intérieur, certainement. Autant ceux qui sont dans cette salle, qui sont en ligne, en direct ou en différé, il y a un combat, Seigneur, pour prendre les bonnes décisions. Parce que c'est le propre des bonnes décisions. Elles sont difficiles. Les décisions faciles, c'est le mauvais chemin. Celui qui est large et spacieux. Où est-ce que plein de monde, c'est un chemin populaire. Mais celui qui est difficile, n'est-ce pas ce qui caractérise le bon chemin, le chemin qui mène à la vie, Jésus dit. Seigneur, aide-moi à avoir le courage de prendre la bonne décision, d'assumer mes péchés sans me rendre victime, de les confesser, d'assumer mes défis et de continuer à te supplier, à dépendre de toi chaque jour, parce qu'il y a un combat qui va continuer jusqu'à la fin pour garder le cap sur le bon chemin. Que cette vision du ciel, Seigneur, fortifie notre foi ce matin, qu'elle nous convainque de ce que tu veux nous convaincre, toi. Parle-nous, Seigneur. On a besoin d'entendre ta voix. On a besoin de ta direction. On a besoin de tes bons soins de berger ce matin. On est tellement de gens qui lisons ta parole, qui entendons. Et il y a tellement de réponses différentes qu'on a besoin d'entendre, Seigneur. Fais-le, parle-nous présentement dans la prière. Rappelle à nos cœurs ce que tu veux rappeler présentement. Une vérité, une promesse, un souvenir, un verset, un moment où ce que nous étions dans une communion satisfaisante avec toi. Qu'est-ce qui m'en a égaré? Où suis-je maintenant? Où veux-tu m'amener? Ô bon berger, j'ai besoin de toi ce matin. Conduis-nous, puissions-nous être prêts à te retourner. Nous te prions dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.